Bonjour Valérie.
Bonjour.
Comment vas-tu ce matin?
Ça va très bien, toi?
Oui, alors Valérie, oui, je vais bien, merci. Elle est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand avec nous tous les dimanches matin. Et là, ça prend une autre dimension ce matin parce qu'il s'est passé quelque chose d'historique. Quelques pas qui vont changer le cours de l'histoire pour, le gouvernement Donald Trump.
Oui, parce que le président américain a mis les pieds en Corée du Nord et c'est le premier président en fonction à l'avoir fait. Alors, ça s'est passé pendant qu'on dormait cette nuit, parce que bien sûr, avec la différence d'heure, ouais. Mais quand même, qu'on soit d'accord ou pas avec le geste et la symbolique, c'est historique. Il s'est rendu sur place, même si c'était là, une dizaine de pas de l'autre côté, là, parce qu'il a traversé une zone qui est non militarisée entre les deux Corées. Et il a serré la main à celui qu'il dit, bien sûr, son bon ami, Kim Jong-un, qui est leader nord-coréen, mais bien sûr pas le leader des droits humains. Alors, je voudrais que les réactions sont mitigées jusqu'à maintenant ce matin. Et je crois qu'on a un extrait qu'on peut entendre de Cao quand ils se sont rencontrés là, pour montrer à quel point c'était vraiment improvisé comme rencontre.
Great things are happening and in a lot of places, but we met and we liked each other from day one, and that was very important.
Alors, il vient de dire que lui et Kim s'aimaient depuis le jour.
Exactement. Puis, oh, c'est ça, voilà. Alors, leur histoire d'amour, hein, il l'avait dit, ils s'écrivent des lettres et tout ça. Ils ont quand même une belle histoire d'amour. Et ce qu'on n'a pas entendu dans l'extrait, c'est qu'à un certain moment, les gens disent « tassez-vous du chemin ». On entend les gens un peu crier et c'est très, très chaotique parce que c'était pas prévu. Alors, imaginez, là, les photographes veulent tous photographier ce moment historique-là, mais on leur dit « tassez-vous ». Alors, on voit que c'est pas l'organisation habituelle d'un événement entre deux dignitaires et un moment aussi historique. Je vous rappelle là, qu'il a invité à lui serrer la main par Twitter hier. Il n'avait aucune idée si M. Kim Jong-un, qui comme il l'appelle, allait répondre à son invitation.
Ben, alors, Valérie,
voilà, ça s'est passé cette nuit.
Tu me dis que les réactions sont mitigées face à cette rencontre. Est-ce que tu penses que ça va faire gagner des points à Donald Trump, qui est en pleine campagne de charme aux États-Unis actuellement?
Oui, ben je crois que tout à fait, surtout s'il y a un autre sommet, ça serait le troisième, et c'est ce qu'ils ont dit les deux hommes, c'est qu'ils voulaient se rencontrer, qu'ils voulaient continuer les négociations. Alors si ça s'en va dans une direction que je dirais qui est très positive, qu'on s'en va vers vraiment des véritables réalisations, ça va être positif parce que quand même, lui va pouvoir dire, mais écoutez, moi je suis le premier président à avoir rencontré le leader nord-coréen, je suis le premier président à avoir mis les pieds en Corée du Nord. Je voudrais qu'on n'ait pas encore, c'est pas demain la veille comme on dit que Kim Jong-un viendra à Washington parce que le président aussi ce matin l'a invité. Mais quand même, ça se passera pas tout de suite, mais je crois que ça peut avoir un très bel impact sur le président Trump, surtout auprès des gens qui sont d'accord avec ses politiques en disant, ben écoutez, lui il fait bouger les choses, c'est sa façon de négocier.
Bon, Valérie, on doit faire un retour ce matin sur le G20. Puis plusieurs se demandent si Trump n'aurait pas encore une fois tourné le dos à ses alliés.
Oui, tout à fait, parce qu'il avait promis à Justin Trudeau de parler de la libération des deux Canadiens qui sont toujours détenus en Chine. On le sait que le président Trump a rencontré le président chinois. Ils ont parlé de plusieurs choses, entre autres de recommencer les discussions au niveau des accords commerciaux entre les deux pays. Mais il n'y a pas eu de discussion sur la directrice financière qui est en ce moment en détention au Canada. Et c'est vraiment elle qui est au cœur de tout ce litige-là avec Huawei. Et vraiment, ben ce qu'on dit, c'est écoutez, s'il n'a pas parlé de la femme que les Chinois veulent faire libérer, veulent faire rentrer au pays, il a certainement pas parlé des deux Canadiens qui sont détenus. Alors bon, on dit tout d'abord qu'il n'a pas rempli sa promesse à Justin Trudeau, qui est son allié. Mais ce qui est particulier, Marie-Hélène, c'est que dès le vendredi, je crois, si je ne me trompe pas, il faisait des blagues avec Vladimir Poutine sur son ingérence dans l'élection. Il disait, bon, faites pas d'ingérence avec un petit ton moqueur, quand les journalistes lui ont demandé s'il allait en discuter avec lui. Et si on va encore un peu plus loin, il a rencontré Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut se rappeler Jamal Khashoggi, le journaliste qui a été tué et démembré? Ça aurait été aux ordres de cet homme-là. Donc, ignorer les questions à ce sujet-là. Et il lui a dit qu'il était très, très fier des réalisations en Arabie Saoudite. Alors, je peux vous dire que ça donnait assez le ton sur le G20 à ce niveau-là.
Bon, il y a eu un débat démocrate. En fait, il y a cette semaine, c'était quand le dernier débat, Valérie?
Oui, c'est sur deux journées. Alors, il y a eu le débat mercredi soir et jeudi soir. Mercredi, c'était, je vous dirais, les noms un petit peu moins connus, sauf Elizabeth Warren. Et jeudi soir, on avait Joe Biden et Bernie Bernie Sanders.
Bon, puis on entend beaucoup parler de Kamala Harris, chez nous, entre autres, qui gagne beaucoup en popularité après le débat démocrate. Et là, tu vas nous raconter qu'il faut que, parce qu'elle est noire, elle ambitionne d'ailleurs d'être, de devenir la première présidente noire des États-Unis. Et là, on trouve qu'elle n'est pas assez noire, c'est ça?
Oui, exactement. Bon, parce qu'on cherche toujours un peu à dénigrer les candidats qui sont, je vous dirais, qui pourraient être en hausse dans les sondages. Et elle, Kamala Harris, juste pour vous faire la petite histoire, sa mère est indienne et son père est jamaïcain. Donc, elle est métissée, elle est biraciale, mais elle a la peau, le teint foncé. Et là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle se représente comme une afro-américaine, une personne noire aux États-Unis. Elle parle des inégalités raciales, donc elle parle de ce discours-là. Et il y a des gens sur Twitter qui ont dit, ben écoutez, pourquoi s'approprier le discours des Afro-Américains ou des Noirs aux États-Unis quand elle n'est même pas une vraie Noire? Et là, il y a Donald Trump Jr., le fils du président, qui a retweeté un message en disant qu'elle n'était pas assez noire, c'était pas une vraie Noire. Alors, imaginez la controverse. Oui, on est vraiment là-dedans. Alors, on est là-dedans, puis je vous dirais que la campagne de Kamala Harris l'utilise un peu à son avantage en disant, ben, je devrais pas avoir à me défendre de ça ou à prouver quoi que ce soit. Moi, je suis là pour défendre les inégalités et j'en ai subi du racisme aux États-Unis et je suis un produit de tout ça. Alors, elle dit, je vais défendre les droits des minorités, mais elle a comparé, et les gens de sa campagne ont comparé ça un peu à quand Barack Obama devait prouver qu'il était bel et bien né aux États-Unis. Hein, ça fait pas si longtemps que ça.
Trump,
entre autres, lui disait que c'était pas un vrai Américain, qu'il était même dans les gens qui croyaient dur comme fer que Barack Obama était pas un vrai Américain. Et elle dit, bon, on est habitué d'avoir ce genre de commentaires, mais quand même, là, de se dire, c'est pas une vraie noire, elle est pas assez noire, mais elle veut défendre les inégalités raciales, je trouve ça assez particulier, surtout du fils du président qui s'est d'ailleurs excusé, qui a retiré le tweet en disant qu'il avait pas bien compris le sens du message de la personne sur Twitter et qu'il avait fait ça là, un peu en se disant « Ah oui, je ne savais pas qu'elle était à moitié indienne. »
Bon,
il s'est défendu de cette façon-là.
Il y a aussi un employé de la campagne du président Trump qui a créé un site de désinformation pour ridiculiser Joe Biden cette semaine.
Oui, alors c'est joebiden.info et quand vous allez là-dessus, ça a l'air d'un vrai site officiel, mais quand on descend un petit peu plus loin, on se rend compte que c'est vraiment un site qui veut ridiculiser l'ancien vice-président des États-Unis. Ça ressemble un peu au site de désinformation russe. Et on voit des images, ce qu'on appelle des gifs, des images du vice-président quand il touche les femmes de façon inappropriée, quand il s'approche des jeunes filles. On le sait, hein, ça avait fait une grosse controverse récemment et ça va continuer de le faire pendant la campagne. On parle aussi de ces politiques qui sont pas vraiment des bonnes politiques, pas vraiment un bon héritage de Joe Biden. Alors ça, c'est un site qui a été créé, mais il y a bien des gens qui se sont fait prendre au piège au début en allant sur ce site-là en croyant que c'était le site officiel de la campagne de Joe Biden.
Bon, c'est quoi cette histoire de Trump, cette espèce de conflit qu'il a avec une équipe de soccer féminine?
Oui, exactement. Alors, il y a la co-capitaine de l'équipe de soccer des États-Unis qui est en compétition en ce moment, Megan Rapinoe, qui a refusé, avant même de gagner la compétition, de dire, écoutez-moi, si le président Trump m'invite, et là, je vais pas traduire les mots qui étaient assez grossiers, il y a aucune chance que je me rende à la Maison-Blanche. Elle défend les droits LGBT depuis toujours. Et elle, Marie-Hélène, c'est la première femme qui a mis un genou au sol pour protester contre les violences faites aux Noirs. Alors, c'est une Américaine blanche, mais elle s'est dit qu'elle se sentait, elle savait c'était quoi être victime de préjugés. Le mouvement de Colin Kaepernick, elle a vraiment endossé tout ça. Elle refuse aussi de chanter l'hymne national lorsqu'il est chanté avant les matchs. Et elle déteste, vous comprenez bien, le président Trump.
Fait que là, c'est de la provocation, là, lui.
C'est ça. Et lui, il a dit ben, qu'elle commence par gagner, puis on se reparlera par la suite. Puis, et là, ce qui est l'insulte un peu suprême, c'est qu'elle ira visiter la Chambre des représentants suite à l'invitation des démocrates. Alors, elle dit, mais je n'irai pas à la Maison-Blanche, mais je vais aller avec mes amis démocrates à la Chambre des représentants. Donc, bien sûr, ça insulte la Maison-Blanche.
Bon, là, cette semaine, c'est le 4th of July.
Oui.
Et raconte-nous ce qu'a fait un concessionnaire Ford de l'Alabama, une promotion qui n'a aucun sens.
Ben oui, écoute, moi je croyais que c'était une fausse nouvelle, mais un concessionnaire Ford du sud de l'Alabama donnait une promotion. Alors, à l'achat d'un camion de type pick-up, on donnait un shotgun, une Bible et un drapeau américain. c'était la promotion qu'il y avait et c'est devenu viral.
Un shotgun, c'est un fusil à pompe, là, littéralement.
Oui, oui, exactement. Alors, ce qu'on appelle, c'est ça, ce qu'on appelle un shotgun, et sur les images, on le voit avec l'arme à feu, la Bible, le drapeau et le camion à l'arrière. Donc, vraiment, on peut pas faire plus cliché américain du Sud que ça. Et là, c'est devenu viral sur le web. Et finalement, la compagnie Ford a dit, ben écoutez, nous, on veut pas promouvoir de donner une arme à feu, là. On sait même pas d'avoir un permis ou autre. C'est de la faire donner en promotion, comme on peut dire, qu'on vous donne de l'argent ou qu'on vous donne un scooter à l'achat d'une voiture. Là, ils ont dit, arrêtez tout ça. Et finalement, maintenant, c'est God. On a changé la politique et je peux vous laisser entendre le propriétaire du concessionnaire automobile.
It's back on at Chatham Ford. God and glory. All the rest of this month and all of July, we're going to give away a Bible, an American flag and a gift certificate to use wherever you want for whatever you want. It's your right. Come see us. Every vehicle sold, a Bible, a flag and a gift certificate.
OK, alors finalement, il donne un chèque cadeau.
Oui, voilà. Il a changé. La promotion, c'est plus, ce n'est plus God, Guns and Freedom, et c'est God, Glory and Freedom. Alors, il a décidé de donner un certificat cadeau de 200$. Les gens peuvent acheter ce qu'ils veulent. S'ils veulent s'acheter une arme à feu, ça sera à eux de décider. Mais il a gardé sa promotion. Mais ce qu'il a dit en entrevue à plusieurs réseaux américains là, de l'Alabama, il a dit, écoutez, je m'attendais jamais à ce que ça se rende aux oreilles de Ford et je m'attendais jamais à ce que ça devienne aussi populaire, mais bon, ça démontre un peu l'esprit, je voudrais stéréotypé qu'on peut avoir et les gens qui disaient, ben,
mais
c'est only in Alabama.
Et c'est pas only in Alabama, c'est ça l'affaire. Mm-hmm. C'est pas parce que ça...
On l'a vu ailleurs.
Ben oui, on le voit dans d'autres États. T'sais, on regarde ça puis on se dit, bon, écoute, c'est épouvantable, mais en même temps, ça surprend à qui?
Je vous dirais que nous, ici, j'essaie de faire le parallèle. Je me demande, ici, si on vend un pick-up Ford, qu'est-ce qu'on peut donner? Je pense pas que ça va être une arme à feu qu'on va
offrir. Ben non, mais écoute, impossible. Mais aux États-Unis, c'est épouvantable, mais en même temps, ça surprend personne.
T'sais. Oui, oui.
Mais merci beaucoup, Valérie. Est-ce qu'on te souhaite une bonne fête, un bon 4th of July?
Ben oui, c'est sûr que je vais avoir une pensée pour les voisins américains.
Merci beaucoup. Ben, puis en attendant, bonne fête du Canada demain. Il est 8h57, au retour, les informations.